C'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé?
Qu'il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre?
Moi j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béga que j'aimerais me faire.
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro ?
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Salut, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Duo et vous écoutez l'émission Des litres de salive. Aujourd'hui, aliénation des fluides, à qui profite la mouille. Une émission un petit peu hétérocentrée, parce que quand on parle d'amour, de sexualité, d'aliénation, et ben ouais, c'est surtout dans les relations hétéro que ça se traduit, et surtout que ça s'explique structurellement et pas par juste des rapports de pouvoir interpersonnels, en tout cas pas que. On va y revenir beaucoup. Je vais beaucoup parler de meufs. Le plus souvent, ça désigne des meufs cisgenres, des personnes transféminines et des meufs trans. Moi, je suis cis, alors peut-être des fois, je capte pas si les meufs trans, elles sont concernées ou pas par une situation. Je vais parler de cul tout du long de l'émission, donc vous vous doutez. Du coup, les oreilles chastes, tout ça, blabla, il faut les éloigner, naninana. On va commencer par un petit rappel, c'est quoi l'hétéronormativité ? Hétéronormativité. Ensemble de pressions qui poussent à se conformer aux normes de l'hétérosexualité. À l'échelle individuelle, cela pousse à correspondre aux normes de son propre genre. Dans les relations, cela pousse une des personnes à adopter un rôle correspondant au rôle féminin et l'autre un rôle correspondant au rôle masculin, ce qui maintient une répartition des rôles et des tâches basée sur une binarité de genre et aussi sur une hiérarchie. Cela fonctionne dans les relations hétérosexuelles, non-hétérosexuelles, des relations amicales, familiales. À l'échelle de la société, les institutions sont discriminantes envers les personnes ne correspondant pas à l'hétéronormativité du fait de leurs orientations sexuelles, identité de genre ou schéma relationnel. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté la définition. Et ouais, c'est bien austère quand même, tout ça. Donc j'ai eu envie de parler d'aliénation. Et voilà, le sujet, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vaste. Et ça fait quelques semaines que je me perds dedans en n'avançant pas forcément autant que je le voudrais. Donc on va en revenir à ce qui structure l'aliénation des fluides, le système des normes sociales derrière. Je vais parler de deux bouquins et puis faire des lectures. En gros, on va faire un petit tour d'horizon théorique de pourquoi et comment nos sexualités sont aliénées. Un tour d'horizon partiel, hein, voilà. Et avec un exercice pratique de désaliénation à la fin. Pas corporelle, quoi. Pratique intellectuelle, vous voyez. Il y a un complot dont on parle pas suffisamment, c'est
le complot du détournement des fluides. Des litres et des litres de mouille détournée qui servent à emporter sur le flot de la jouissance des hommes cis, en laissant les meufs sur la rive, avec du sable plein les parties. On nous dit c'est la nature, c'est le mystère de l'orgasme des personnes à vulve, c'est compliqué, là là là, c'est une question de point de vue tout ça. Les choses auxquelles on n'a pas envie de consacrer de l'énergie, ou en tout cas les choses auxquelles on est formaté à ne pas consacrer de l'énergie, elles paraissent toujours trop compliquées. Et c'est ce que je me disais quand je suggérais à un amant d'y aller plus doucement avec ses doigts sur ma vulve, que j'imaginais déjà façon steak haché, et qu'il me répondit avec un sens de la formule qui me laissa sans voix. « Ah bah ouais, mais moi j'ai pas des mains de bureaucrate, hein !» La connerie profonde de cette réflexion est en un sens intéressante et permet plusieurs niveaux d'analyse. Tout d'abord, elle revêt un caractère classiste. En effet, les prolos et les personnes qui effectuent du travail manuel sont censés écorcher les vulves de leurs partenaires, apparemment. Moi, je vous le dis tout de suite, ce type, hein, même si réaliser du travail manuel à des périodes, je ne le mettrais pas exactement dans la catégorie prolo, hein, ou alors il nous fait du classisme internalisé, il a honte de sa condition sociale. Bon, ça arrive, hein, mais il redirige son agressivité sur les personnes qui le vexent. Et bon, je veux pas dire, mais en fait, c'est pas parce que tu as des cales sur les mains que ça fait mal. C'est parce que tu es nul. Et je t'en voudrais pas si éventuellement tu avais le souhait de remédier à cette nullité. Autre dimension d'analyse possible, celle de la domination masculine, hein, bien sûr. Manifestement, j'étais pas vraiment censée me plaindre. Mais oui, je fais ce que je peux, femelle. Tes récriminations me déconcentrent de ma sérénissime teub. Ce qui est étonnant, c'est l'absence d'empathie. La concentration exclusive de ce type sur lui-même et sa petite vexation, et son réflexe purement défensif. Aucune considération pour la douleur qu'il peut infliger à autrui. Alors certes, c'est juste un tocard égoïste. Certes, ça m'apprendra à pécho sur Tinder. Mais ça m'apprendra quoi exactement ? C'est pas comme si c'était la première fois que le sexe avec un mec cis est surprenamment malaisant et tout pourri pour des raisons similaires. Il y a un sentiment par lequel je suis passée souvent, trop souvent, c'est le sentiment d'être un objet. C'est ce qu'on entend toujours et c'est ce qui se dit, hein, souvent, qu'ils prennent les meufs pour des objets. Mais laissez-moi vous décrire le truc. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un, vous ressentez une attirance qui semble réciproque. Une interaction sexuelle débute. Et puis au bout de peu de temps, vous avez l'impression que c'est pas vraiment une interaction sexuelle en fait. Non, cette personne est en train d'utiliser votre corps pour se branler avec. Et dedans, potentiellement. Votre plaisir, si vous en ressentez, n'a d'utilité qu'à alimenter l'excitation de l'autre. Et là, c'est subtil. C'est pas forcément évident de ressentir la différence. Souvent, on est excité par le plaisir de l'autre, sans que ça aille avec une absence de considération pour lui et elle. Là, c'est différent. Vous êtes dépersonnalisé, vous n'existez pas autrement que comme objet masturbatoire. Et la personne se met à faire tout un tas de trucs, et dans chaque changement de position, de rythme, vous sentez bien qu'aucune attention n'est portée à vous, et que vous lui servez à s'exciter. En tant que meuf, on sait pas trop baiser comme ça. Et même si on le faisait, les pratiques sexuelles les plus courantes, comme la pénétration, elles amènent la plupart des types à la jouissance. Donc ils auraient au moins ça. J'aimerais bien que ce genre de sensation se cantonne au sexe avec les connards de Tinder. Malheureusement, ça arrive aussi avec des partenaires réguliers, des gens où il y a l'amour, tout ça. Parce que les normes en matière de sexualité, elles rendent les types actifs, directifs, centrés sur leur plaisir. Et que ces normes, elles nous rendent conciliantes à l'excès. Elles nous poussent à nous oublier, en particulier face à ceux qu'on aime. Sans vigilance de notre part pendant un certain temps. Il y a les vieux réflexes qui reviennent, tout ça, tout ça. Mais je veux être emportée, moi. Je veux surfer tranquille sur la vague de ma propre mouille. Et c'est possible, souvent. Souvent, c'est possible. On va commencer par quelques définitions générales pour poser les trucs. D'abord, je voulais donner une référence. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Jouissance Club qui a sorti un bouquin, en gros, d'éducation sexuelle avec plein de schémas sur plein de façons de toucher les vulves, par exemple, plein de trucs comme ça. Voilà, ça peut être chouette à regarder. Donc, définition générale, On va commencer par l'aliénation. Donc, l'aliénation concerne plusieurs domaines. Ça désigne en gros, je pense que vous savez déjà vraiment tout ça, mais bon, bref. Ça désigne en gros le fait de ne pas s'appartenir au bénéfice d'autres personnes ou de l'entretien d'un système. Le plus souvent des deux. C'est un terme qui est assez large. On peut être aliéné par le travail, l'argent, la religion. Et on le retrouve aussi, par exemple, dans la psychanalyse. Et je vous en aurais volontiers parlé, mais j'ai essayé de lire un article sur Lacan et le concept d'aliénation, et ça m'a vraiment fait mal au crâne. Dans la sociologie, le terme il vient plutôt de Karl Marx, et il décrit le système capitaliste dans lequel le travail de l'ouvrier et de l'ouvrière, même si Marx ne parle pas trop de l'ouvrière, leur est aliéné. Sur Internet, j'ai trouvé cette définition-là, sur le site de l'Encyclopédie Universalis. Donc je cite cette encyclopédie. « Lors du rapport salarial capitaliste, le résultat du travail de l'ouvrier ne lui appartient pas, puisqu'il a échangé un temps de travail contre un salaire. À la fin de cet échange salarial capitaliste, le résultat du travail de l'ouvrier lui est étranger, c'est-à-dire aliéné, puisqu'il est la propriété de l'employeur. Il est ainsi, dans la nature de cet échange marchand, un temps de travail contre un salaire, que sont les rapports de production capitaliste de déposséder l'ouvrier ou plus généralement le salarié des résultats de son travail au bénéfice du capitalisme. » Ok, donc ça c'était Internet. Il y a une anthropologue qui s'appelle Gail Rubin qui a fait pas mal d'analyses et de commentaires de Karl Marx et elle nous dit que les marchandises nécessaires à la reproduction de la force de travail doivent être transformées par le travail domestique, habituellement accompli par les femmes. Et que n'étant pas rémunéré, ce travail participe à l'augmentation de la plus-value, et tout ça explique le fonctionnement de l'exploitation des femmes par le capitalisme, mais ça n'explique pas ses raisons. Beaucoup de sociétés très éloignées du fonctionnement capitaliste sont sexistes et maintiennent les femmes dans des rôles subordonnés, par exemple l'Europe féodale. Et Marx parle d'un élément moral et historique qui détermine la façon dont la force de travail est reproduite. Et cet élément, il dépend du contexte culturel, des traditions, des croyances, tout ça. Et Gail Rubin, elle parle aussi de Engels, le pote de Marx, et lui, dans l'origine de la famille, il reconnaît que l'oppression des femmes est héritée de formes sociales antérieures. Oui, merci. Et Rubin, elle nous dit que, et je cite, « Chaque société a aussi un système de sexe-genre, un ensemble de dispositions par lesquelles le matériel biologique brut du sexe et de la procréation est façonné par l'intervention humaine, sociale, et satisfait selon des conventions. » Donc il y a une aliénation spécifique des meufs à l'échelle de la société et dans les rapports interpersonnels. Cette question-là, elle a été bien explorée récemment avec le concept de charge mentale pour ce qui est des tâches ménagères. On peut y ajouter la charge émotionnelle et aussi la charge sexuelle. Alors toutes ces charges, elles découlent de l'injonction pour les meufs à ce qu'on appelle le care, le travail de soin aux autres. Donc la charge sexuelle, elle désigne en particulier le fait que les personnes à utérus subissent des injonctions pour s'occuper de la contraception. Elle désigne aussi l'attention particulière que les meufs en général sont poussées à accorder au plaisir d'un partenaire masculin au détriment de leur propre plaisir. Et puis aussi, des trucs genre qu'on doit faire attention à l'épilation, ou au moins se poser la question de si on le fait ou pas, parce que cette saloperie de question, elle existe en fait dans ce monde, et les petites culottes en dentelle, et puis il faut sucer, mais pas trop, espèce de catin, et il faut faire beaucoup de pédagogie sans cesse pour espérer avoir des orgasmes, tout en ayant soi-même assimilé beaucoup de techniques sans qu'on nous demande rien, parce que c'est normal. Tout ça dans le cadre de l'hétérosexualité, bien sûr. Voilà, sur la charge sexuelle, il y a un bouquin qui est sorti, je sais plus, je crois que le bouquin s'appelle juste la charge sexuelle, c'est un bouquin de Clémentine Gallo et Caroline Michel. Pour les gens qui veulent un résumé, il y a un article sur ce bouquin qui est paru dans Les Inrock il n'y a pas très longtemps. Voilà, si vous cherchez Clémentine Gallo et Caroline Michel, vous allez le trouver. Donc l'aliénation, ça appartient pas, et sexuellement non plus. Donc notre énergie, nos désirs, ils sont accaparés par plusieurs dynamiques de pouvoir qui les tiraillent, qui finissent par nous déchirer, nous les rendre flous, et puis nous-mêmes, on devient toutes floues. Les corps des personnes à utérus sont aliénés à la reproduction et à sa maîtrise, au service du capitalisme, de la discipline, travail, famille, patrie, tout ça. Les corps de toutes et tous pour l'hétérosexualité, mais de façon inégale, et les corps des meufs sont pour la satisfaction des mecs cis. Alors, moi je vais reprendre un petit peu mon souffle après ces définitions quelque peu abruptes. On va s'écouter une jolie chanson.
Je comprends pas pourquoi je l'ai traumatisé.
Wouhou! C'était Yaourt aux fruits de Lisa Monet. Voilà, j'espère que ça vous a filé la pêche. Moi personnellement, je suis quand même un petit peu interpellée par la fixation sur la taille de certains appendices. Voilà, ça me questionne un petit peu. Mais voilà. Et on notera que dans cette chanson, il y a le mot kékette. Et c'est, enfin voilà. Maintenant, on va parler de deux bouquins. Le premier parle de l'aliénation de la sexualité des meufs au bénéfice de celle des hommes et des divers échanges auxquels ça donne lieu. Et le deuxième bouquin, il parle des rapports sexuels eux-mêmes, de comment ils sont structurés. Et spoiler, beaucoup autour de l'érection et de l'orgasme des types 6. Donc c'est des bouquins d'anthropologie et de sexologie. J'ai essayé de garder que les trucs importants des bouquins, d'écrémer au maximum et de garder un truc un peu structuré. Mais bon, ça reste ce que moi-même j'ai retenu de ces bouquins. C'est mon point de vue perso dessus. Voilà. Alors, on commence par Paola Tabet. Alors, Paola Tabet, elle est anthropologue. Elle a beaucoup travaillé sur les inégalités de genre dans pas mal de domaines, comme par exemple pour l'usage des outils et sa répartition en fonction du genre. Alors, dans son bouquin qui s'appelle La Grande Arnaque, qui est sorti en 2004, elle parle de l'échange économico-sexuel. Donc elle sort d'une opposition entre prostitution et rapport sexuel gratuit en mettant le doigt sur le fait qu'un continuum existe. Et elle explore cette diversité au travers de différentes époques, différents endroits du monde et différentes populations, comme une anthropologue, quoi. Donc c'est pas si simple que soit il y a les personnes qui se prostituent, soit les personnes qui se prostituent pas. Il y a une très grande variabilité des tarifs, des durées d'échange, mais aussi de ce que comprend l'échange. Par exemple, il peut comprendre du soutien émotionnel et des tâches ménagères, comme le mariage. Il y a aussi des histoires amoureuses qui comprennent un échange d'argent. Voilà, donc on peut avoir les deux en même temps. Si on veut définir ce qui relève vraiment de la prostitution, il y a deux critères qui ressortent, la multiplicité des partenaires et la rétribution d'actes sexuels. Mais en fait, ces critères, ils peuvent également s'appliquer à des situations qui ne sont pas du tout identifiées comme de la prostitution. Et à travers les différentes sociétés étudiées, ces critères, ils ne sont pas toujours présents dans ce qui est identifié comme prostitution non plus. C'est-à-dire que y a des femmes qui ont une sexualité hors mariage ou maintenant hors du couple, pour nos sociétés à nous, elles peuvent se voir attribuer un stigmate de putain. Donc le terme de prostituée, il est parfois appliqué simplement aux femmes qui vivent hors du contrôle d'un homme. Il y a des contradictions apparentes, parce qu'en fait, c'est ni la rémunération, ni la promiscuité sexuelle qui vont être décisives, mais c'est l'usage de la sexualité des femmes hors et à l'encontre des structures de l'échange des femmes. L'échange des femmes, c'est un phénomène dont a beaucoup parlé l'anthropologue Lévi-Strauss. Les femmes, dans de nombreuses sociétés, elles sont comme une monnaie d'échange et un moyen de se lier entre populations. Voilà. Donc, les relations sexuelles en échange de rémunération, elles ne sont pas qualifiées de prostitution quand elles sont conformes à l'organisation sociale. Ce qui est constant dans ces définitions, c'est qu'elles se font en rapport avec le pouvoir masculin, par rapport à lui. Et Tabet, elle nous dit « Les différentes définitions de la prostitution constituent un discours sur l'usage légitime et sur l'usage illégitime qui peut être fait du corps des femmes. » Donc ça va au-delà de cette question-là. Et donc, c'est politique, c'est une question de contrôle des femmes. C'est inégalitaire, ça va seulement dans le sens de la domination masculine. Il n'y a pas d'universalité dans les caractéristiques de cet échange économico-sexuel. Et les catégories de femmes sont utilisées comme des instruments de pression sur les femmes. Donc, on a une aliénation des corps féminins et de la sexualité des meufs, sous différentes structures, systèmes, etc., et toujours au bénéfice des hommes. Ensuite, elle parle de la sexualité des femmes, encore, et de l'échange économique. Donc, j'ai une citation. « Dans un contexte général de domination des hommes sur les femmes, les rapports entre les sexes ne constituent pas un échange réciproque de sexualité. Un autre type d'échange se met en place, non pas de la sexualité contre de la sexualité, mais une compensation contre une prestation, un paiement en valeur économique, mais aussi en valeur prestige, en statut social. Donc un paiement contre une sexualité largement transformée en service. L'échange économico-sexuel devient ainsi la forme constante des rapports entre les sexes et il structure la sexualité elle-même. Le système de dons qui est en place, il va systématiquement des dons de l'homme à la meuf en échange de sexualité. Donc les femmes, elles donnent pas de sexualité simplement en échange de sexualité, et il y a un déséquilibre entre la demande des hommes et celle des femmes. Et elle remarque ça, par exemple, dans les populations des îles Trobriand. Les explications qui sont envisagées sur ces différences de demande de sexualité, tout ça, c'est un moindre penchant des femmes pour le sexe. Alors bon, ça, on sait que c'est quand même des grosses conneries. Bien que, peut-être, dans la sexualité hétéro, les femmes ne trouvent pas leur compte et elles en ont moins envie que les hommes, peut-être. Et autre hypothèse, la réciprocité sexuelle est impossible dans une situation d'inégalité sociale. L'unidirectionnalité de l'échange, elle indique un déséquilibre, et ça induit que la sexualité des femmes, elle est au service de celle des hommes. Et toujours aux îles Trobriand, il y a un continuum qui existe dans les échanges des personnes, qui va d'une sexualité de jeu et de plaisir jusqu'à une sexualité vraiment exclusivement de service. Et au fur et à mesure qu'on va vers une sexualité de service, la rémunération doit devenir plus importante. Et là, ce que Tabé, parce que son bouquin s'appelle donc La Grande Arnaque, est-ce que Tabé considère être une grande arnaque, c'est par exemple de définir simplement une personne prostituée comme une meuf qui prend de l'argent en échange de sexe, parce que ce n'est valable que dans le contexte occidental et moderne, et encore. C'est très différent à d'autres époques, dans d'autres cultures. Ça concerne plutôt les femmes hors de contrôle. Et aussi, il y a une autre perspective, c'est qu'en Haïti, par exemple, les femmes travaillent... Je ne sais pas à quelle époque a été faite cette étude-là, mais les femmes travaillent, mais elles considèrent que leur ressource principale, c'est leur sexe. Donc leur sexe, de la sexualité, et aussi le fait qu'elles puissent faire des enfants. Et ça souligne une absence de droit à une sexualité qui leur est propre, et le contrôle des hommes sur cette sexualité. La sexualité des meufs, c'est donc pour faire des enfants, pour faire plaisir aux hommes, et c'est utilisé comme une ressource. Et oui, et l'accès inégal aux ressources, ça impose l'utilisation de leur sexe par les femmes. Voilà, aussi, la domination, tout ça. Le don suppose, et constamment impose, une différence entre les sujets sexuels. Donc il y a une division interne à la classe des femmes dans le travail épouse prostituée en Occident, et ça influe sur l'accès des femmes aux biens communs, à la différence des sociétés de chasseurs-cueilleurs, dans lesquelles ça passe toujours par les hommes. Et la signification symbolique du don, elle peut excéder sa valeur économique. C'est-à-dire que si les fleurs constituent pas, les fleurs par exemple, constituent pas un paiement ou sont pas une monnaie, il n'en reste pas moins qu'elles sont un don discours qu'elles proclament la subordination de la sexualité des femmes. Voilà. En donnant quelque chose contre, on souligne le fait qu'il y a besoin de donner quelque chose contre. Donc il y a plein de questions qui découlent de tout ça. Est-ce que les échanges sont pas un minimum de compensation dans un contexte difficile pour les meufs, ou au contraire, est-ce que les maintenir, ça maintient aussi la position des dominants? Et est-ce que le contexte culturel n'est pas entretenu par ce système de dons? Enfin voilà. Dans un autre article qui est retranscrit dans le bouquin, donc Tabé, elle revient là-dessus, elle nous dit qu'il y a un contexte de domination des hommes sur les femmes, une compensation contre une prestation, tout ça, et que, en fait, ce truc-là, il structure la sexualité. Le problème, c'est pas l'échange économico-sexuel en lui-même, mais les éventuelles conditions d'exercice. Je peux peut-être passer là-dessus. Je vais faire une dernière citation. Enfin, c'est une considération plutôt, mais sur la prostitution, qui est un métier traditionnellement féminin, et que ça illustre en fait le rapport de domination qui est présent dans la société. C'est quelque chose qui est fourni par les femmes à des hommes, et c'est lié aux données fondamentales des rapports de sexe, le défaut d'accès aux ressources, aux outils, aux moyens de production, et le roc solide de la domination masculine. Voilà, j'espère que ça va, c'est un peu fou C'est un peu intense, peut-être. On va passer au deuxième bouquin. Le deuxième bouquin, c'est Les scripts de la sexualité de John Gagnon. Alors, le bouquin lui-même, il a été édité en 2008, mais c'est un recueil de plusieurs articles de John Gagnon. C'est des articles, les premiers doivent dater de la fin des années 70 et ça doit aller jusqu'à la fin des années 80, 90, quelque chose comme ça. Déjà, il nous parle de la sexologie, il dit « L'inconvénient de la création d'une discipline comme la sexologie, c'est que ça confirme une certaine mise à l'écart de l'étude de la sexualité par rapport aux autres phénomènes sociaux. Et du coup, ça devient une discipline particulière, exercée par des gens particuliers à leurs propres yeux et à ceux des autres. Et la sexualité se trouve, à cause de ça, séparée à nos yeux du reste du monde social, et ça nous empêche de percevoir qu'elle en est le produit, tout comme tous nos autres comportements. Le fait d'expliquer les gestes et actes sexuels uniquement par la présence de certains organes prévus à cet effet, ça occulte la diversité et la richesse de leur signification, ça occulte également le fait que ces actes sont produits par un développement psychologique et social pour chaque individu. L'expérience même de l'excitation sexuelle, qui semble prendre son origine dans les sources internes cachées, est en fait un processus appris. Et c'est uniquement par notre insistance sur le mythe de la naturalité qui nous empêche d'en voir les composantes sociales. La sexualité est une expérience universelle, mais les modalités de cette expérience ne le sont pas. Elles dépendent du milieu social et culturel. Mais l'aspect naturel et biologique, voire spontané, de la sexualité fait partie des scripts même de la sexualité en Occident. Des fois, il y a une adéquation entre un désir sexuel et un script commun à deux protagonistes qui est difficile à obtenir à cause de la variété des scripts qui peut exister. Le script, il possède deux dimensions. D'abord, il y a la dimension interpersonnelle, qui est constitué par des normes communes à deux ou à plusieurs personnes qui se lancent dans des actes sexuels et durant lequel il y a une dépendance mutuelle qui se développe. Ensuite, il y a la dimension intrapsychique qui concerne les éléments qui produisent l'excitation et l'implication de l'individu dans l'acte. C'est important de remarquer que des actes semblables peuvent receler des significations complètement différentes selon l'individu qui y est impliqué ou même selon les périodes de sa vie. La perception qu'on a de tel ou tel acte sexuel, ça influe sur la façon dont on va le vivre bien plus que le contenu concret de l'acte. Il y a une contextualisation sociale et psychologique à faire pour toute expérience sexuelle. Et alors je cite « L'ensemble des événements constituant les éléments physiques du script actuel de comportement hétérosexuel adulte ou adolescent qui conduit au coït aux États-Unis est caractérisé par une progression qui va de l'étreinte au baiser, des caresses au-dessus de la taille au contact des parties génitales avec la main, avec quelquefois des contacts entre la bouche et les parties génitales, et aboutit au coït. » Donc le script, c'est une suite d'actions bien précises, accomplies dans un certain ordre, et propres à une certaine culture, en l'occurrence la culture occidentale en général. Johnson, il dit, on peut rapprocher les scripts d'autres formes narratives. Par exemple, le schéma invoqué par Master et Johnson dans leur étude, donc le schéma excitation, plateau, orgasme, résolution, il correspond en fait à la construction du drame selon Aristote. Est-ce que c'est pertinent de remarquer ça de la part d'un sexologue, je ne sais pas, mais c'est marrant. Ils peuvent également se rapprocher d'autres schémas narratifs comme ceux de la poésie, du théâtre de l'absurde. Alors moi, j'aimerais beaucoup voir des films porno basés sur le théâtre de l'absurde, mais je crois qu'ils sont tous comme ça, en fait. Hein. Ouais. Donc, ensuite, dans un chapitre suivant, Gagnon nous dit « Les résultats d'une recherche, elles dépendent en grande partie de son cadre. » Les constats à propos du phénomène étudié, ils dépendent des techniques des chercheurs, des idées qui font consensus dans le cercle de chercheurs concernés. Et du coup, les théories, c'est pas des descriptions du monde, c'est pas neutre, mais c'est des directives pour savoir ce qu'il faut observer dans le monde. Et donc, il nous dit, la sexualité, c'est une construction sociale. Bien que les pratiques elles-mêmes varient peu, on observe des grandes variations dans l'interprétation de ces pratiques selon les cultures et les époques. La manière qu'ont les sciences dures et humaines d'aborder la sexualité est elle aussi un construit culturel. Les populations et civilisations ayant suivi un brassage sont plus susceptibles de receler des variations dans les pratiques. Et les sociétés ont tendance à avoir une interprétation biologique de la sexualité. Il existe une confusion entre les conduites reproductives, les conduites de genre et les conduites sexuelles, qui sont trois choses distinctes. Les scripts, ils permettent d'établir des conventions par rapport à la sexualité. Le script, je cite, est l'organisation de conventions partagées qui permettent à deux ou plusieurs acteurs de participer à un acte complexe qui suppose une dépendance mutuelle. On va passer à une partie où il parle des situations de violence sexuelle et d'agression. Donc, les violences et les situations d'agression sont scriptées, au même titre que toutes les interactions sociales. Il existe aux États-Unis une thèse de l'influence des scénarios culturels sur la violence sexuelle exercée sur les femmes, et elle repose sur trois points. Donc, premier point, une acceptation des deux sexes, de croyances culturelles sur la sexualité qui invoquent la violence masculine en réponse au refus féminin. Autre point, la représentation des femmes, en particulier dans des documents sexuellement explicites qui favoriseraient un manque de respect envers elles et par extension les agressions sexuelles, quelle hypothèse intéressante. Et troisième point, la violence globalement présente aux États-Unis et l'inégalité des sexes qui entraîne un certain mépris pour les femmes et qu'on retrouve dans le domaine de la sexualité. Ça me semble plus probable que la deuxième option. Donc cependant, il n'y a pas de preuve que la consommation de matériel pornographique entraîne une hausse de l'agressivité sexuelle chez les hommes. Ben oui. Lorsque ce matériel contient des éléments violents, les études à ce propos se contredisent. Mais on ne dispose pas d'études sur l'effet de groupe face à ces supports ou sur l'influence de l'alcool. Le recours à la violence et à la force pour obtenir un rapport sexuel, il est considéré comme légitime par des hommes lorsque la relation est stable ou a un statut légal. Ça concerne les femmes victimes de violences sexuelles ayant un statut protégé. Donc il appelle ça comme ça, hein, des femmes avec statut protégé. Elles sont dans une relation officielle avec un homme, et de ce fait, ce sont des femmes honnêtes et protégées de la prédation sexuelle. Des autres, mais pas de leur conjoint, quoi, voilà. Il existe un statut de femme quasiment protégée. Ce sont celles qui n'ont pas de relations sexuelles avec des hommes, mais qui font partie de leur entourage, genre leur étudiante, leur secrétaire, et sur lesquelles ils ont un pouvoir hiérarchique ou autre. La vulnérabilité peut susciter chez les types un intérêt sexuel dans certaines situations. Et Gagnon continue en parlant du troisième statut. Donc le troisième statut qui existe, c'est celui des femmes carrément sans protection. Le script conduisant à la violence sexuelle envers ces femmes-là est différent. Il n'est pas question de subordination légitimant la violence. Dans ces cas-là, les femmes ont des attributs qui les désignent comme sexuellement disponibles. Et ces attributs peuvent être seulement physiques, comme des vêtements, ou alors ils peuvent être comportementaux, comme le style de vie, de travail, le fait d'être ivre, etc. Après, il dit un truc... Il dit que ce risque existe dans les rencontres avec des hommes issus de toutes catégories sociales, notamment les étudiants issus des classes moyennes, les gangs issus des classes ouvrières, et les travailleurs du bâtiment et les militaires en permission. Je trouve ça vraiment très précis et pas très malin et potentiellement classiste. Bref, voilà. Mais donc, il y a des femmes qui ont un statut de femme sans la protection d'un homme et qui sont des proies plus désignées. Dans la conclusion, Gagnon, il résume en disant que le script, il donne sa signification aux actions qui forment le rapport, il précède une éventuelle signification individuelle de chaque action, que la sexualité, c'est pas un comportement individuel, c'est le fruit d'une culture, d'une certaine société, et de la façon dont les possibilités sexuelles ont été structurées ou pas. Et pour finir, que les scripts de la sexualité, tout comme les autres scripts, ils existent à un niveau individuel, interactionnel et aussi culturel. Ah, voilà, donc je pense que c'était effectivement un peu intense. On va se faire une petite récré auditive des années 80 et je reviens après. Thank you. C'était Patty Gesh avec Étienne. Voilà. Du coup, on avait fini sur John Gagnon qui nous expliquait les schémas de l'agression sexuelle et les statuts des meufs, etc. Ça me permet d'enchaîner sur la question du consentement, enfin sur une partie de la question du consentement, parce que c'est vaste, là aussi. Donc, le consentement, c'est un concept un peu déjà large et assez casse-gueule. Déjà, c'est, je tiens à dire, c'est un net progrès que seulement on en parle. Mais il est impacté par des rapports de pouvoir qui sont présents dans les relations. Sa version dépolitisée, en tout cas. Donc je parle de rapports de pouvoir qui sont structurels, de domination masculine, qui est tout à fait marqué dans le champ de la sexualité, et qui font que, bah, par exemple, les types se sentent autorisés à plein de trucs et croient qu'on est d'accord d'office parce qu'eux, ils ont envie. On n'a pas les mêmes raisonnements, en fait. On n'a pas appris que « Oh, du sexe, c'est super, vas-y, prends, c'est toujours bien !» On n'a pas appris que, de toute façon, si on n'a pas envie, on peut le dire. Et on n'aura pas à avoir honte et on n'aura pas non plus à avoir peur. Alors, consentir, du coup, le mot, il est un peu mou, s'il ne tient pas compte des structures politiques, en tout cas, voilà, des structures sociales. C'est mou. Au début d'une brochure qui s'appelle « Apprendre le consentement en 3 semaines, le cahier de vacances », fun, On peut lire, de manière générale, les définitions de consentement vont toujours dans le sens d'un accord clair et total. Quand il est certain que, lorsqu'on recherche les définitions du verbe consentir auquel il se rapporte, on trouve des définitions bien plus variées en termes de sens qui comprennent entre autres tout un champ lié à la résignation. Avec par exemple des synonymes comme céder, condescendre, dénier, se résigner, se soumettre, admettre, qui induisent pour le coup, dans le langage courant, cette même connotation négative au terme de consentement. Reste à rendre ou à donner au mot consentement tout son sens, celui d'un accord vrai, d'un oui enthousiaste. Voilà, c'est la fin de la citation de la brochure. Ça demande d'être un minimum à l'écoute et pas trop égoïste, alors c'est pas accessible pour tout le monde. Et c'est pas exactement encouragé par les normes hétérosexuelles, tout ça. Et voilà, je parle à côté du micro, c'est super. Bref. En fait, à propos de ces histoires de consentement, j'ai un truc à dire à quelqu'un. À quelqu'un qui écoutera pas, parce que de toute façon, c'est bien son truc de pas écouter. Ta langue dans ma bouche, c'était pas exactement ce que j'avais prévu. Ni souhaité. Ça me faisait pas trop envie que t'attrapes ma tête avec tes deux mains comme ça, comme si j'étais un ballon de basket particulièrement sensuel qui t'aurait aguiché et tu y mets la langue avec toute ta salive, tes microbes, ton haleine d'alcool. Notons, j'ai rien contre les haleines, ni contre l'alcool, mais toi tu me plais pas et puis tu demandes rien, juste tu prends avec ton grand corps tellement plus grand que le mien, tes gros bras qui pourraient me faire mal et t'es beaucoup beaucoup plus grand. Plus tard, quand je te croiserai devant les bars, je me sentirai mal sans comprendre. Et aussi, à cause de ton grand corps et tes grands bras qui pourraient me faire mal, qui peuvent me forcer à faire quelque chose pour toi, pour ton agrément. C'est ce qu'ils viennent de faire, tes gros bras avec des mains puissantes au bout, qui tiennent ma tête pas consentante, ma tête surprise, mes lèvres qui s'entrouvrent par réflexe. Parce que sous l'effet de surprise, on m'a plutôt appris, suggéré et insinué de suivre le courant pour pas être la fille chiante, la fille vexée et encore moins la fille violée. Je comprends même pas que c'est une agression. 6 mois après, je comprends. Et je me sens tellement conne, c'est un pur cliché de meuf agressée. En plus, j'avais envoyé un message à mon ami qui était ton ex, un message d'excuse parce qu'on s'était embrassé. Genre, j'étais pas cool. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, les gens qui saisissent nos têtes à deux mains par surprise, comme pour les bouffer et qui nous incursionnent la bouche, eh ben, on les embrasse pas, ils nous agressent. C'est bizarre de se sentir utilisé, comme si on n'avait pas de volonté propre. Et c'est encore plus bizarre de comprendre le problème que 6 mois plus tard. Ou alors c'est pas bizarre du tout, c'est la condition féminine. C'est laisser les gens utiliser des parties de toi parce que ça leur est agréable. Voilà, youpi, c'était le fun. Le fun. Alors, la bonne nouvelle, parce que quand même, il y a des bonnes nouvelles hein, dans le domaine, tout ça, c'est que comme tous ces trucs de merde sur l'aliénation des sexualités, la domination, tout ça, eh ben, c'est du construit culturel et social, eh ben, ça peut bouger. Pour ça, il faudrait volontairement remettre en question sa sexualité, aller vers des formes moins hétéronormées, acquérir des compétences techniques vis-à-vis du plaisir des personnes à vulve, remodeler son propre imaginaire, sans forcément rejeter complètement ce qui nous excite et qui nous vient de notre culture hétérosexuelle pour ne pas non plus se faire du mal. Ça fait beaucoup de trucs, beaucoup. Alors maintenant, on va finir sur un petit exercice qui va mettre en scène le pire de l'hétérosexualité en lecture commentée. Donc on va prendre une nouvelle porno érotique qui, à mon sens, contient les travers typiques du sexe hétéro, et encore, quand il est un petit peu sympa, un peu riche au niveau de sa créativité. Alors attention, dans ce texte, il y a pas mal de passages où le consentement de la meuf n'est pas respecté, et même si elle ne le vit pas comme ça, c'est des agressions qui sont décrites. Et peut-être vous n'avez pas envie d'entendre ça. Du coup, je vous laisse partir. Voilà. Ou éteindre le poste. Voilà. Vous êtes parti. J'aimerais bien vous dire que j'ai choisi exprès la pire nouvelle du bouquin, mais en fait, même pas, elles sont toutes de cet acabit, hein, voilà. Et je vais essayer de soulever les problèmes posés par le texte, en parallèle de la lecture, mais aussi d'offrir des versions alternatives de ce qui pourrait s'y passer et qui serait là sympa. Donc je vais essayer de désaliéner les fluides de ce texte. Je doute que ça soit vraiment possible, hein, mais allons-y. Pour une meilleure compréhension, je vais adopter une voix mièvre pour la lecture et une voix un peu plus naturelle quand je ferai le commentaire. J'espère que ça va fonctionner et que ce sera intelligible. Alors... Visite surprise. Nous étions au cinéma, mon conjoint et moi, juste avant que la présentation débute. Guy, oui, il s'appelle Guy, s'offre d'aller chercher des choses à grignoter. Il me quitte quelques minutes et revient avec chacun une boisson gazeuse et un gros paquet de pop-corn à partager. Tout au long de la représentation, Guy s'amuse à me frotter les cuisses, à glisser des glaçons de son verre dans mon entrejambe et même à frotter le dessus de mon string afin de m'exciter. Il aime voir ma réaction, mais je ne lui en donne pas trop pour son argent. Ok, alors... quand même, il lui ramène de la bouffe. Ça, c'est bien, ça, la bouffe. Mais après, bah, les glaçons pleins de soda sur la chatte, il peut les garder. En fait, typiquement, il sait pas que bah, le sucre, surtout en contact direct comme ça, c'est hyper mauvais pour la flore vaginale. Il a l'air assez mal informé, alors qu'il a l'air de beaucoup aimer ça, les chattes. Du coup, je trouve qu'il fait aucun effort, voilà. Et en fait, il a l'air vraiment trop chiant. La meuf, elle bronche pas, genre elle bouge pas. Il lui met des glaçons pleins de non, dis pas des marques, des glaçons pleins de cola dans le string. Mais imaginez une seconde ce que ça donne là, visuellement là. Enfin, bon. Pour trouver une version un peu sympa, pour déconstruire un peu, eh ben, il pourrait la laisser regarder son film Peinard. Mais du coup, c'est pas pornographique. Mais on peut dire, il lui fait des bisous. Elle lui montre où, elle pointe des endroits de son cou avec son index, en essayant de rester concentrée sur le film, et ça fait un jeu, et ça éveille son désir. Alors au bout d'un moment, elle guide la main de son amant vers sa petite culotte toute mouillée, oulala. Et si elle a envie d'une petite mycose, hop là, un petit coup de cola sur les parties. Je reprends. Une fois le film terminé, on s'apprête à partir quand on rencontre son bon ami Jean qui se promène seul. On lui demande ce qu'il fait là, seul, et il nous dit avoir été délaissé par une jeune femme qui ne s'est jamais présentée à leur rendez-vous. Ouin, ouin. Guy le taquine sur la situation, mais le prend en pitié et l'invite à venir passer quelques heures à la maison. Jean accepte tout de suite. De mon côté, je suis un peu déçue. Moi qui avais plutôt hâte d'arriver à la maison, vous comprenez. Je ne laisse rien paraître de ma déception. Après tout, le pauvre Jean a bien besoin de se faire remonter le moral. Celui-ci offre de prendre le volant et de jouer le rôle du taxi. Guy s'assoit donc avec moi sur la banquette arrière. Cela fait drôle, mais j'aime bien. Ok, alors déjà... Il y a un truc qu'elle aime bien, genre, elle aime bien. C'est marquant, parce que jusque-là, ça arrivait pas tellement. Hein. Je trouve que ce bon ami Jean tombe extrêmement bien. Et que cette meuf, oui, surtout, elle s'efface au bénéfice du bien-être d'un type qu'elle connaît à peine et qui a été déçu par une femme. Et c'est assez typique, genre, enfin voilà, vous sentez venir que vraiment, il va être bien consolé. Là, en version sympa, eh ben, il rencontre Jean, quand même. Mais la meuf, elle le trouve sexy, et son mec aussi, et puis il l'embarque, soi-disant pour faire le taxi-taxi, mais en fait, tout le monde a bien compris que tout le monde avait envie, quoi. Je reprends la lecture. Il reprend tout de suite son petit jeu du cinéma. Cette fois-ci, il s'amuse à glisser son doigt sous l'élastique de mon string. Je mouille et je suis mal à l'aise. Il m'embrasse passionnément tandis qu'il continue de jouer avec mon sous-vêtement, ça rime. Je suis maintenant complètement trempée et excitée. Je repousse sa main en n'en voulant plus. Je lui chuchote d'arrêter parce que Jean pourrait peut-être nous voir. En m'embrassant, il m'assure que son ami ne se doute de rien, qu'il ne voit pas ses mains agir. Il me déboutonne et s'empare de mes seins avec sa bouche. Il tourne sa langue autour de mes bouts si durs et les mordit, tandis que sa main fouineuse, continue de taquiner mon pubis, taquiner quasi inondé. Du coin de l'œil, je remarque Jean qui déplace le rétroviseur afin de mieux voir le spectacle qui s'annonce. Je sursaute un peu, surprise. Et Jean, d'un regard suppliant, porte son doigt doucement à sa bouche pour me demander de ne rien dire. De mon côté, je suis un peu gênée et hésitante, mais le jeu de langue et la main de Guy me fait vite oublier cette gêne. De même que je sens mon excitation monter, je me sens cochonne, oui, à l'idée que mon conjoint n'a pas remarqué ce voyeur, et moi oui. Bon, sur cet extrait, par où commencer ? Donc, elle est super mal à l'aise tout le temps, mais elle a une réponse physiologique d'excitation sexuelle avec sa mouille, alors tout va bien, genre nickel. Elle le repousse physiquement, elle lui dit d'arrêter, sans qu'aucun jeu érotique autour de ça soit mis en place, mais tout va bien, c'est excitant, c'est montré comme excitant, c'est écrit comme étant le truc excitant. L'autre qui met son doigt sur sa bouche, enfin, je trouve qu'on demande à cette meuf de la fermer, genre vraiment beaucoup. Et bon, pour que ça soit sympa, et ben là, elle aurait pu commencer à caresser l'entrejambe du type sur la banquette arrière, parce que manifestement, il est chaud bouillant, quoi, tout en essayant volontairement de trouver le regard de ce brave Jean. Des regards complices auraient été échangés, elle aurait demandé, verbalement et avec enthousiasme, à être embrassée et touchée sous le regard de Jean qui conduit, et peut-être il aurait eu un accident, il aurait éventuellement l'initiative de stimuler ses tétons en s'assurant de son enthousiasme. Et au bout d'un moment, elle l'aurait prié d'insérer des doigts en elle en ne quittant pas Jean du regard. Oui, de son regard brûlant, si vous voulez. Bon là, il y a tout un passage, ça me fatigue d'avance, mais bon... diverses occurrences de termes, genre des verges dressées et des pénis qui pointent fièrement, ça parle, enfin voilà, continuellement, c'est toujours de la même façon. Y a une donc très forte valorisation des érections et du pénis vu comme actif. Les gens font le coït sur la banquette arrière pendant que Jean les regarde dans le rétroviseur, tout ça. Il y a toujours des gros soucis de consentement dans la suite. Il y a une très forte érotisation, encore et encore, de l'impuissance, de la surprise, en gros de la domination de la meuf. Dans un cadre où ce serait son souhait à elle, ce serait pas un problème, mais là, clairement, c'est pas du tout le cas. Et aussi, on sait pas trop ce qui l'excite à elle, il y a pas du tout autant de précision que pour son mec. Elle participe pas à la construction et au déroulement de l'échange, sauf dans des cas exceptionnels, mais dans le bouquin, même pas dans cette nouvelle-là. Et même quand elle-même scénarise un jeu sexuel, les types reprennent le dessus hyper vite. Je relève également que dans cet extrait, les gens empoignent des seins. Mais il faut arrêter d'empoigner les seins des gens. C'est pas des déambulateurs, les seins. Alors, on notera... Avant de reprendre la lecture, après cette partie que je n'ai pas le courage de lire, on note que quand même, quand ils arrivent à la maison, je cite, « Je me dirige vers la salle de bain afin de me changer et de me nettoyer un peu. Les gars, s'ouvrent une bière ?» Bon, et là, dans un cool scénario, les gens, ils se laveraient mutuellement en se caressant partout, et les types, ils pourraient se tripoter un peu au lieu de picoler. Enfin, je dis ça, hein, voilà. Je reprends la suite de la lecture. Donc là, ils viennent. Elle vient de revenir de la salle de bain et eux, ils sont en train de picoler. Je regarde Jean qui, sans pudeur, baisse son pantalon, affichant une belle grosse queue en érection. Oui, là, on voit une constante avec Lisa Monet. Tout le monde a des énormes bites. Je regarde Guy qui dit à Jean : Tu peux baiser ma femme si tu veux. Je n'en crois pas mes oreilles, et nous non plus. Comment ose-t-il me mettre dans une telle situation sans m'en parler ? Oui, nous en avions déjà discuté dans le passé, et Guy sait très bien que c'est un de mes fantasmes, mais sans avoir mon opinion, sans que je puisse réagir. Les deux hommes s'approchent de moi. Guy, souriant, m'embrasse, tandis que Jean, complètement nu, et au garde à vous, le vocabulaire guerrier dans la sexualité, c'est super, se met à parcourir mon corps de ses mains. Guy me tire par la main afin de nous guider vers la chambre à coucher. Alors que l'un déboutonne ma blouse, l'autre retire ma jupe. Me voilà nu comme un ver devant ces deux hommes qui bandent. Alors jusque-là, on pouvait encore croire, avec un petit peu de mauvaise foi, que l'absence de respect du consentement de la meuf, ça faisait partie d'un jeu, ou de son fantasme. Ça aurait pas été clair du tout, mais bon, peut-être, on sait jamais. Mais là, les illusions tombent. En gros, elle lui en a vaguement parlé une fois, il utilise l'effet de surprise pour l'embarquer, et la narratrice dit clairement que ça la choque. Et qu'elle est pour le moins déstabilisée, et tout ça est montré comme quelque chose de très érotique. Ouh là là. Bon, c'est une nouvelle, c'est de la fiction. On peut fantasmer sur des trucs qui nous conviennent pas éthiquement. On fantasme bien sûr ce qu'on peut, de toute façon. Mais est-ce que c'est pour autant neutre d'avoir un imaginaire érotique dont la contrainte plus ou moins violente des meufs, c'est juste l'élément de base? Pas juste un truc qui peut en faire partie, qui est là ou pas, non, juste la base. Je précise, je parle pas du tout de BDSM, où toutes ces pratiques, elles sont consciemment choisies, avec une conscience des rapports de pouvoir la plupart du temps, tout ça. Hein. Non. Juste la sexualité de base. Bref, on peut aussi noter la très forte différence faite entre la meuf et les deux types, dans la mise en valeur du corps, dans le rapport actif-passif, tout ça. Mais comme tout n'est pas toujours pourri, on va donc inventer une version alternative plus sympa de cette partie du texte aussi. Et ben là, ce qui aurait pu se passer, c'est que déjà, ils se seraient toutes fait des câlins dans la douche et tripotés. Et alors, ils sortent ensemble de la salle de bain, enveloppés dans des serviettes moelleuses, parce que genre, c'est l'hiver. Ils parlent un peu de leur fantasme, en buvant un petit verre d'alcool de verveine, et la meuf, elle leur parle de sa passion pour Harry Potter. Mais pas pour son auteur qui est nul et transforme, hein. Vraiment juste pour la série Harry Potter. Alors, ils se disent qu'ils peuvent faire un jeu de rôle sexuel, et ils seraient Harry et Ron, et elle serait Hermione. Et puis, ça les excite, alors ils se caressent, et d'abord lentement, et puis ça s'accélère, les caresses, elles se précisent, elles sont plus appuyées sur des cuisses qui s'écartent, sur des dos qui se cambrent, et ça se lèche, et ça se suce mutuellement, et les serviettes, elles tombent, et en dessous, leur corps, ils sont tout chauds, ils sont ouverts, ça bande, ça mouille de partout, les lèvres du sexe de la meuf, à présent, elles sont gonflées par le désir, elles sont entrouvertes, et leur couleur, elle s'est réchauffée aussi. Allez, j'arrête. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté couler tous ces litres de salive. Peut-être sur un épisode 2 sur l'aliénation. Sur niquer pour les autres, niquer pour soi. Sur l'exploitation capitaliste des fluides, l'hétéronormativité, l'émancipation des sexualités, les nouvelles normes, tout ça, tout ça. À bientôt. Tous les quatrièmes dimanches du mois à 19h. Et on se quitte avec une petite chanson de Meryl qui s'appelle Coucou.
Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. C'est la moula. Elle a tout. Ça se fait le château et partout, guili guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air, elle s'est en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle à la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la, même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle aime la vie. Thank you. Elle danse comme une rafale de balles, elle me sait sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dansent en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Qui donne on dit merci.
Perfect.